Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un retour à la vie normale, peut-être, mi-avril. C'est la nouvelle échéance donnée aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement. L'exécutif veut donner des perspectives alors que les semaines qui viennent demeurent très incertaines. La campagne de vaccination va-t-elle enfin décoller pour permettre de ne pas fermer de nouveau le pays? Le Premier ministre fait une conférence de presse demain. Il va se prononcer sur le sort d'une vingtaine de départements dans le rouge, mais avec la volonté visiblement de continuer à faire du cas par cas. Alors comment accélérer la campagne de vaccination au niveau national si les doutes persistent, notamment sur l'AstraZeneca? Pourquoi les soignants rechignent toujours à se faire vacciner? Pourquoi certains pays européens ont choisi, eux, de faire confiance aux vaccins chinois et russes? Ont-ils raison? Vaccination accélérée ou confinée? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Caroline Tourbe, vous êtes journaliste, sciences et médecine au journal Le Point. Avec nous ce soir, le professeur Antoine Flau. Vous êtes, je le rappelle, épidémiologiste. Vous dirigez l'Institut de santé globale à l'Université de Genève en Suisse. Je signale votre livre « Covid, le bal masqué » publié aux éditions Duno. Enfin, avec nous ce soir, Marie-Paul Kieny. Vous êtes virologue, directrice de recherche à l'INSERM. Vous présidez le comité vaccin Covid-19. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer par la phrase du jour avec vous, Nathalie Saint-Cricq. Une lueur d'espoir. On a l'impression qu'en ce moment, l'exécutif tente de manier à la fois la carotte et le bâton. Là, aujourd'hui, c'était pour dire ça va aller mieux, il va falloir tenir. Ça ira mieux peut-être mi-avril.
Oui, il y a eu une réflexion ces derniers jours en disant qu'on ne pouvait pas tenir sans perspective, puisque les plus folles rumeurs étaient en train de courir. Reconfinement intégral, confinement le week-end, que ça allait être l'enfer. On ne sait pas si ça va être l'enfer de fait. Avec l'idée très précise qu'on ne peut supporter l'enfer, même s'il est temporaire, que si on sait à un moment donné qu'il va s'arrêter. Donc on a eu effectivement, entre Emmanuel Macron qui a parlé de 4 à 6 semaines qui permettrait de voir les choses, et Gabriel Attal qui nous le donne, une raison d'espérer, tout en ne sachant pas totalement eux-mêmes ce qui va être fait ou décidé demain, puisque j'ai cru comprendre que c'était de l'affinage de dernier moment et que les décisions étaient prises vraiment au dernier moment. Donc, faire en sorte que les Français supportent, que les Français tiennent et qu'ils aient un petit espoir.
En gros, c'est la petite phrase pour faire passer la pilule. Si pilule, il y a
non,
demain.
C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que manifestement, avec tous les retours qu'on peut avoir des Français qui n'ont pas le moral, et ça fait un moment qu'on le dit, mais ça a l'air de s'aggraver vraiment, c'est leur dire, vous voyez autour de vous certains pays qui s'en sortent bien, nous aussi ça va aller, tenez le coup, et ça ne durera pas indéfiniment, ou même si ça dure indéfiniment, et je parle sous le contrôle des scientifiques, c'est-à-dire qu'on a d'autres versions et d'autres versions et d'autres versions, on pourra continuer à revivre, ou du moins faire un certain nombre de choses agréables, puisque le diagnostic, c'est que le manque d'agrément à ce point-là dans la vie, et l'idée de pouvoir éventuellement travailler toute la semaine pour vous aller rire le week-end, pouvoir rester chez soi, c'est quelque chose qui est quand même difficile à avaler.
Vous savez qu'il y a 6 Français sur 10, c'est un sondage qui a été publié cet après-midi, 6 Français sur 10 qui s'attendent à un confinement national, Caroline Tourbe.
Oui, c'est vrai qu'annoncer une date d'éclaircie, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs, puisque clairement, on ne sait pas quels sont les moyens qui vont être mis pour stopper la progression actuelle dans certains départements, pour augmenter la vaccination, c'est dont on va parler ce soir. Ouais. Donc c'est vrai qu'on donne une date, mais en fait, quand on donne une date, il faut donner un programme. Et là, pour l'instant, le programme, on ne l'a pas.
On est dans un message, Antoine Flau, on le disait, à la fois un Premier ministre qui dit les semaines qui viennent vont être difficiles parce qu'on est dans cet entre-deux. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez sur l'évolution de l'épidémie. Et d'un autre côté, on voit bien aussi le gouvernement qui a la volonté. Et on voit ces images de la Grande-Bretagne qui annonce même un échéancier avec des mesures d'ouverture qui sont programmées, notamment avec une décision de réouverture à la fin juin annoncée par Boris Johnson. Il est difficile à tenir le message.
Oui. En fait, dans beaucoup de pays d'Europe, la situation se tend. Il y a presque une troisième vague qui apparaît en Europe centrale en ce moment. Quand on regarde la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, donc la pression du virus reste encore très forte. L'hiver n'est pas terminé et la France reste dans ce plateau élevé et a plutôt tendance un peu à monter en ce moment. Donc entre 20 et 30 000 cas nouveaux par jour nécessitera pour en être suffisamment débarrassé pour pouvoir réouvrir le pays des mesures très fortes pendant les 4 ou 6 semaines qui vont venir. C'est cela qu'on peut s'attendre à voir, parce que sinon, on n'arriverait pas dans un plateau actuel si élevé à réouvrir, parce qu'il y a déjà des mesures très fortes qui permettent de limiter l'extension du virus, mais on sent que ces nouveaux variants qui commencent à prendre beaucoup de place tirent vers le haut toutes ces incidences et toutes ces courbes épidémiques. Donc je ne vois pas trop comment, en dehors de mesures très fortes, on puisse se débarrasser du problème dans un mois et demi.
Je m'arrête sur ce que vous venez d'expliquer, Antoine Flahault. C'est vrai que, vu d'ici, on se dit, quand on regarde les chiffres tous les jours, on est à peu près entre 22 et 25 000, parfois un peu plus, contaminations jour. On nous dit qu'on est sur un plateau haut, mais ça tient avec les mesures de restriction. Ce que vous dites, vous, c'est que dans ces conditions-là, la réouverture annoncée pour la mi-avril n'est pas possible.
Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas possible. Je pense qu'elle est très ambitieuse. Elle est possible. Par ailleurs, il y a sans doute des régions pour lesquelles, même avant mi-avril, ça devrait être possible d'arriver à des incidences très basses. Vous savez, on prend souvent le Finistère comme exemple, mais il y a plusieurs départements français pour lesquels l'incidence aujourd'hui est très basse. Et donc, il n'y a même pas besoin d'un confinement strict pendant plus d'une ou deux semaines pour arriver à pratiquement ne plus voir circuler le virus et donc, du coup, pouvoir réouvrir. Mais ce qui est vrai, c'est que malgré les mesures, on ne peut pas dire que les mesures actuelles soient des mesures légères. Quand il n'y a plus du tout de vie dans les bars, les restaurants, de vie sociale, de vie culturelle, de vie sportive, vraiment les interactions sociales sont poussées au minimum déjà. Et malgré cela, le plateau ne descend pas. En fait, si une partie descend, c'est-à-dire tous les anciens virus, enfin les virus originels, pas les nouveaux variants, eux s'écrasent grâce à ces mesures. Donc ces mesures sont très efficaces sur, je dirais, le début de cette pandémie. Mais sur la nouvelle version de cette pandémie qui est peuplée de ces variants parmi la population des virus, eh bien, on peut se dire que non, ces mesures ne semblent pas suffisantes puisque le plateau ne descend pas.
On ne fera pas l'économie, dites-vous, de mesures de restrictions supplémentaires si on veut faire baisser le nombre de contaminations par jour et pouvoir rouvrir et reprendre une activité sociale, ce qui, je pense, est le rêve de chacun. Une déclaration avec vous, Marie-Paul Kenny, du directeur général de l'OMS, qui dit que les pays, en gros, ne doivent pas compter que sur le vaccin. S'ils ne comptent que sur le vaccin, dit-il, ils font une erreur.
Oui, ce ne sera pas suffisant parce qu'il faut le temps que la vaccination arrive à monter en puissance, qu'on ait vacciné une grande partie de la population. Et il ne faut pas il ne faut pas oublier les autres mesures. Il reste les mesures d'hygiène, de masse, de distanciation sociale. Mais je pense que les Français se sont habitués en fait à l'obligation du masque. C'est désagréable au début, mais finalement, tout le monde s'y est fait un petit peu.
Ça reste désagréable, Marie-Paul Kenny, je vous assure. Non, mais vraiment.
C'est vrai, ça reste désagréable. Mais en fait, si c'est une des conditions pour pouvoir ouvrir sur un certain nombre d'autres libertés qu'on peut avoir, en fait, on va arriver à le supporter.
Mais pourquoi il dit ça, à votre avis, le professeur Tedros, Marie-Paul Kenny? Parce que nous, encore une fois, on avait l'impression que la solution, évidemment, que c'était la vaccination. On va même beaucoup en parler ce soir, puisque le gouvernement nous dit, si on veut s'en sortir, si on ne veut pas fermer, il faut accélérer la vaccination. Et lui, il semble dire que ça ne sera pas si simple.
Non, mais c'est pas si simple parce que Tedros s'occupe aussi pas seulement de la France et des pays qui ont les moyens ou qui vont avoir bientôt les moyens de vacciner des grandes parties de leur population. Il parle aussi à des pays pour lesquels la vaccination démarre à peine ou n'a pas encore démarré et qui vont prendre des mois à avoir suffisamment de vaccins. Donc, ce qui veut dire aussi, je pense, c'est que le monde ne va pas se débarrasser de la pandémie uniquement parce que quelques pays vaccinent et que tant que que l'immunité en fait générale n'est pas présente dans tous les pays, on va être soumis à des risques de réinfection et des variants ici et des variants là. Ouais. Donc le vaccin c'est une chose, mais il va falloir attendre pour qu'il ait tout son effet.
En tout cas, le gouvernement il a fait le choix de la vaccination comme stratégie de santé publique, aujourd'hui, à l'heure où on se parle.
Vraiment, l'idée, c'est d'accélérer. C'est vraiment de pouvoir proposer ces premières doses à plus en plus de Français. Bon, on a vu que l'AstraZeneca va jouer son rôle, le vaccin britannique va pouvoir jouer un rôle beaucoup plus large, puisqu'il est étendu. Il est recommandé maintenant aux gens qui ont plus de 65 ans. On n'avait pas de données au début. Beaucoup ont cru que c'est parce que, comme on n'avait pas de données, ils ont cru que c'est parce qu'il était pas efficace, ça fait partie un peu du quiproquo. En fait, c'était qu'on n'avait pas de données. Bon, voilà, donc il va être disponible pour les plus 65 ans. Ça devrait permettre de donner de l'air.
Et on va y revenir sur l'AstraZeneca, parce que chaque soir, on a beaucoup de questions, d'interrogations sur ce vaccin et du AstraZeneca. Il y en a en stock, donc ça nécessite le fait qu'on s'arrête un petit peu sur le sujet. Accélérer la vaccination, c'est désormais sur cette promesse que repose la stratégie du gouvernement, car pour éviter d'avoir à confiner, il va falloir changer de braquet, comme on dit. Olivier Véran étend l'utilisation du AstraZeneca, vous l'avez dit à l'instant, hein, aux 65-75 ans, et met désormais à contribution les pharmaciens. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
Passer à la vitesse supérieure. C'est l'intention du gouvernement qui s'apprête à autoriser les pharmaciens à vacciner les patients contre le Covid. Dans cette officine du 15e arrondissement de Paris, on se tient prêt.
En théorie, c'est une pièce qui est déjà adaptée pour les vaccinations. Donc que ce soit la vaccination grippe ou anti-Covid, ça va être le même local.
Une accélération de la campagne vaccinale approuvée par la plupart des clients de cette pharmacie.
Le pharmacien qui permet, qui vaccine et qui permet d'accélérer le processus, oui, je trouve ça bien.
Ça serait bien que ça avance un peu plus vite, c'est clair.
Un vœu entendu par la Haute Autorité de Santé qui a annoncé hier de nouvelles recommandations. Les pharmaciens pourraient bientôt administrer toutes sortes de vaccins contre le Covid.
Les possibilités de vaccination vont s'accélérer et donc ensuite ce sont les bras qui risqueraient de manquer.
En ce début du mois de mars, l'exécutif veut marquer le coup, démarrer une nouvelle phase de sa campagne de vaccination alors que 3 millions de Français ont déjà reçu une première dose contre un objectif initial de 4 millions. Olivier Véran a donc annoncé lundi un élargissement de la vaccination aux 65-74 ans, jusque-là exclus.
La Haute Autorité de Santé considère désormais, depuis aujourd'hui, que tous les vaccins dont nous disposons en France, le AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna, ont une efficacité qualifiée de remarquable pour préserver les gens et les protéger des risques de formes graves du Covid.
Ces prochaines semaines, les livraisons de ces vaccins vont considérablement augmenter. Aux 7 millions de doses reçues depuis Noël vont s'ajouter 10 millions de doses en mars, puis 14 millions en avril. Des stocks massifs, alors que les professionnels peinent déjà à écouler leurs doses. Par exemple, seul un quart des vaccins livrés par AstraZeneca et à destination des soignants ont été utilisés. Ce médecin de la PHP s'en inquiétait hier auprès du porte-parole du gouvernement.
On a encore à faire face à des réticences d'un certain nombre de soignants qui sont en contact des patients et qui ne souhaitent pas se faire vacciner pour X raisons, et parfois, j'allais dire, par méconnaissance, par crainte, par...
C'est lié à la vaccination en tant que telle ou à un type de vaccin
Je crois que c'est l'ensemble, ouais. C'est le vaccin ou le type de vaccin. Alors que, vous voyez, les soignants, pour venir exercer à l'hôpital, doivent être vaccinés contre l'hépatite B, et c'est une vaccination qui est obligatoire. Je pense qu'il faudrait réfléchir à une façon de rendre cette vaccination des soignants, de mon point de vue, obligatoire.
Obliger les soignants à se vacciner. La mesure est réclamée par de nombreux chefs de service, inquiets de voir leur personnel réagir en fait comme le reste des Français. Un sondage paru cette semaine montre que seulement 59% de la population est prête à se faire vacciner. C'est mieux qu'en septembre dernier, mais beaucoup moins que chez nos voisins britanniques ou allemands par exemple. La vaccination, c'est pourtant notre salut, insiste le gouvernement qui annonce aujourd'hui un retour à la vie normale, peut-être d'ici quelques semaines.
Tenons bon. Ne nous résignons pas après tant d'efforts. Nous allons affronter encore des épreuves, c'est vrai. Mais pour la première fois depuis des mois maintenant, le retour à des vies plus normales est en vue. Nos sorties, notre sport, notre culture, tous nos exutoires, tous ces lieux qui font notre vie sociale rouvriront. Nous les retrouverons, nous commençons à mesurer les effets de la vaccination sur l'épidémie. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril.
D'ici là, les semaines seront dures, prévient le gouvernement. Confinement total, local ou le week-end. La sentence tombera demain à 18h lors de la conférence de presse de Jean Castex.
Marie-Paul Kieny, si on veut accélérer la vaccination, il va falloir redonner confiance dans le vaccin AstraZeneca. C'est un vaccin qui est mal né et on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même des doutes encore qui pèsent sur ce vaccin.
Alors c'est un vaccin qui a énormément souffert en fait d'une communication très, disons très hectique, hein, surtout des managers et des leaders de la société AstraZeneca, parce que quand les premiers résultats ont été publiés, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un manque de transparence, qu'il a fallu apprendre un petit peu des choses à droite à gauche, comment ça s'est passé là, etc. Donc un manque de transparence qui a donné une suspicion. Alors, je dois avouer que moi-même, il y a un moment, et le comité scientifique, on s'est dit, est-ce que ce vaccin est efficace chez les personnes âgées? On ne savait pas trop, etc. Alors, ça, je crois qu'il va falloir maintenant l'oublier parce que les données scientifiques, et elles sont maintenant, elles viennent d'abondance, elles ont été générées par les déploiements des Britanniques à la fois en Écosse et en Angleterre. Et donc, ça a donné lieu à deux publications qu'on a maintenant qui permettent de voir les résultats et que ces deux publications montrent que le vaccin AstraZeneca est aussi efficace que le vaccin de Pfizer-BioNTech pour protéger contre la maladie sévère, contre l'hospitalisation, et que donc il faut perdre ce préjugé et il faut se mettre dans l'idée que c'est, comme dit Alain Fischer, ce n'est pas un vaccin de seconde classe, c'est un vaccin qui est aussi efficace que les autres, au moins pour se prémunir contre la maladie sévère, et qu'il faut donc l'utiliser, surtout qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation que les autres.
Mais c'est un vaccin avec lequel il y a des effets secondaires.
Alors, il y a des vaccins avec tous les effets secondaires. Il y a des effets secondaires avec tous les vaccins. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec avec Moderna, avec Pfizer-BioNTech, on a des problèmes de réaction, c'est-à-dire de la fièvre, mal au bras, etc. Ce qu'on voit aussi, et ça a l'air d'être le cas aussi pour des vaccins à ARN, en tout cas pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, c'est que les soignants qui ont déjà eu l'occasion d'avoir été infectés par le virus SARS-CoV-2, qui sont déjà positifs, ont tendance à faire une réaction à la première vaccination plus forte que les autres. Donc, ce qu'on voit peut-être tout simplement, c'est que comme le vaccin AstraZeneca, avant d'être recommandé plus large, était recommandé pour les soignants de moins de 50 ans, c'était une population dont beaucoup avaient déjà eu une rencontre avec le SARS-CoV-2, avaient déjà une première immunisation, si je peux dire, et donc et c'est sans doute de là que vient cette réactogénicité. Alors il faut regarder un peu plus loin, il faut arriver à le démontrer, et c'est pour ça que dans le cadre de l'étude de la plateforme d'essais cliniques COVIREVAC, on va démarrer une étude justement pour regarder la différence de réactogénicité sur des gens qui ont déjà rencontré le SARS-CoV-2 par rapport à d'autres qui ne l'ont pas. Mais le plus vraisemblable, c'est que ceci est la responsabilité et donc la cause de la réactogénicité élevée.
Caroline Tourbier, un enjeu majeur quand on parle de la confiance et d'AstraZeneca, parce que du AstraZeneca, on en a. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des gens, ça doit vous arriver dans votre entourage, qui vous disent « Ah non, moi j'attends le Pfizer, ou j'attends le Moderna, ou j'attends le Johnson & Johnson, le AstraZeneca, je n'en veux pas. »
Oui, ça nous arrive dans nos entourages, et puis ça arrive aussi à l'hôpital. Clairement, il y a des soignants jeunes à qui on a proposé l'AstraZeneca qui n'en voulaient pas, et qui notamment, il y a aussi cet effet boule de neige, on a parlé de syndrome un peu pseudo-grippal après les injections. Et c'est vrai que ça a un effet qui distille une méfiance face à un vaccin qui n'était déjà pas, qui était réputé comme étant moins efficace. Donc, il y a comme vraiment... il est mal né, je crois que c'est l'expression parfaite. C'est vraiment un vaccin qui est mal né. Et puis, cette confusion autour des données, ça a diffusé, oui, cette méfiance. Donc, il y a un enjeu énorme, c'est rétablir...
25% des doses, pardon, je vous ai coupé, mais 25% des doses reçues à ce jour ont été injectées.
Exactement.
C'est si peu.
Exactement, c'est très, très peu. Donc, c'est un mélange, là, à la fois de côté pratique, parce qu'au début, on s'est dit, bon, on l'a, on vaccine toutes les équipes massivement, et puis là, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir un syndrome grippal pour, enfin, en tout cas, une fièvre et puis quelques jours d'absence suite à la première vaccination dans les services qui du coup étaient dépeuplés. Alors on a diffusé le vaccin un peu moins largement dans les hôpitaux pour avoir du personnel disponible. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et puis la deuxième raison, c'est en effet des gens qui ont été contactés pour avoir le vaccin et qui ont répondu moi je vais plutôt attendre, le Pfizer, je vais plutôt attendre le vaccin ARN, sachant que les vaccins ARN, ils ont eu une publicité terrible aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont bien nés. C'est une technologie nouvelle, ils sont arrivés très vite. Il y a un aura à la fois technologique, de réussite. À un moment, on était encore vraiment dans la détresse. C'est les premiers. Ils sont les premiers arrivés.
Il y avait certains spécialistes, certains experts qui étaient sceptiques sur la technologie ARN et qui ont émis des doutes publiquement.
Tout à fait, mais ils étaient sceptiques et ils ont été contredits. Donc eux, si vous voulez, la publicité, c'était l'inverse. C'était une publicité positive. C'est-à-dire, on ne savait pas si ça allait marcher. Et si ça marche, ce sera vraiment efficace. Oui, c'est très efficace. Ils sont très à risque. Alors, on n'a pas encore le recul suffisant, en tout cas pour ce qui est des premiers effets secondaires. Bon, il n'y a pas d'effet massif. Donc, cette publicité très positive versus une publicité plutôt négative du AstraZeneca. Il faut quand même se souvenir qu'Emmanuel Macron lui-même a dit, c'était fin janvier, je crois, le vaccin AstraZeneca est très peu efficace chez les plus de 65 ans. Alors, ce qu'il voulait dire, j'imagine, si on a très peu de données, mais sauf qu'au moment où il dit c'est très peu efficace, c'est entendu comme
ça. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas tenir nos objectifs de vaccination si les Français n'ont pas confiance en ce vaccin.
Voilà, non.
Voilà.
Donc, on ne pourra pas.
On parlait des soignants. Un mot avec vous, Nathalie Saint-Cricq, avec ces chiffres qu'on va voir à l'instant, la vaccination des personnels soignants. 37% des personnels vaccinés en EHPAD, 34% dans les hôpitaux de Paris. Ce sont des données de Santé publique France. Ils ne sont pas très enthousiastes.
Hein. Ils ne sont pas très enthousiastes pour les raisons que vous avez données, qui ont été données tout à l'heure par les chercheurs, qui sont qu'effectivement ceux qui ont été confrontés, qui ont eu la maladie, se méfient aussi de AstraZeneca en considérant que les effets secondaires sont plus forts. Et puis, il y a un débat qui est en train de monter dans l'opinion et chez certains, on l'a vu dans le reportage, et chez certains soignants, c'est de se demander si on ne devrait pas rendre obligatoire ce vaccin en se disant, un, que si vous avez votre soignant qui vous dit, moi, je n'ai pas été vacciné, ça ne va pas franchement vous inciter à le faire. Alors, dans les soignants, il y a tout. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des personnes qui sont plus ou moins au courant de toutes les études et plus ou moins formées à pouvoir et analyser et diagnostiquer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut bloquer. Mais, de ce que j'ai cru comprendre, puisque j'ai posé la question, on n'envisage pas pour l'instant, à l'échelon de l'exécutif, de rendre obligatoire cette obligation de vaccin pour les soignants en se disant que c'est... Alors, c'est terrible la phrase en disant qu'on n'a pas forcément suffisamment de recul pour les obliger. Et que de toute façon, en France, on est un pays où on est relativement réticent à l'obligation. Et qu'il y a des pays comme Israël ou la Grande-Bretagne où, en gros, on fait moins les délicats. Et qu'en France, c'est effectivement pas dans notre culture.
Antoine Flao, ils ont tort, les gens qui nous écoutent ce soir et qui disent c'est ma décision. J'ai envie d'attendre un vaccin dans lequel j'ai plutôt confiance. Vous considérez que c'est une prise de risque ?
Ah, c'est une énorme prise de risque. C'est-à-dire que. Parfois, on parle vraiment de la Covid comme avec des statistiques, on donne des chiffres et on ne se rend pas compte que derrière, il y a des personnes qui souffrent. Moi, je trouve que c'est dramatique aujourd'hui de voir des soignants hospitalisés en soins intensifs et parfois mourir alors qu'ils auraient pu être vaccinés. C'est évidemment une tragédie pour toutes les personnes, pas simplement pour les soignants, mais les soignants à qui on propose la vaccination et qui ne la veulent pas et qui se retrouvent avec un Covid compliqué, c'est absolument dramatique. Donc je pense que oui, je peux bien comprendre que certains aient des réticences. On a la chance totalement inouïe, c'était pas du tout... gagner d'avance, mais d'avoir des vaccins qui sont d'une très, très grande efficacité et qui sont d'une très grande sécurité. C'est-à-dire que les effets indésirables dont on parle, il faut se dire que c'est une fièvre pour l'AstraZeneca en particulier, c'est une fièvre qui est forte. Il ne faut pas du tout dire la minimiser. C'est une fièvre qui est forte, c'est une fièvre à 39 degrés. On n'est pas bien, on a l'impression d'avoir un syndrome grippal, mais c'est exactement le même type de syndrome que l'on a quand on a un vaccin contre la fièvre jaune. C'est-à-dire que c'est les vaccins avec des virus vivants, ça entraîne des réactions indésirables qui ne durent pas longtemps. Ça peut durer 24 heures. C'est déjà arrivé que ça dure 48 heures. Et puis après, tout rentre dans l'ordre et ça va très bien. Et les gens sont très immunisés. Au moins, on est sûr que le vaccin était efficace chez eux. Donc, c'est pas une raison pour refuser le vaccin, je pense.
On a l'impression que vous êtes dépité quand vous voyez la réaction des soignants, Antoine Flao.
Non, je ne suis pas dépité du tout. Je pense qu'on sait bien. Mais vous savez, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas du tout que la France. Quand on monte les statistiques, on a l'impression en effet que les Français sont plus réticents. Mais en réalité, il n'y a pas que la réticence au vaccin. On a des difficultés à introduire un nouveau vaccin dans nos pays. Et les pays pauvres, parfois il faut accepter, ce n'est pas facile, on a beaucoup d'arrogance dans les pays riches du Nord. On croit que les champions, c'est nos voisins. On n'a pas idée d'aller voir ce que font les pays du Sud. Les pays africains ont une bien plus grande expérience depuis des décennies d'introduction massive de vaccins. Et il y a des organisations internationales comme l'UNICEF qui sont, à mon avis, les grands experts qu'il faudrait consulter aujourd'hui pour savoir comment déployer massivement un vaccin en France et dans nos pays. Et on n'est pas très bon. Et il n'y a pas que nous, les Américains, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 20 États américains qui ont plus de 20% de stock non utilisé dans leur réfrigérateur. Ouais. C'est un petit peu la situation française. Et les Allemands, regardez les journaux allemands, ils en sont à peu près dans la même situation. On ne sait pas bien utiliser les doses qui sont dans notre réfrigérateur, on ne sait pas bien les déployer.
La question, effectivement, vous l'avez dit, c'est de vacciner massivement. Cette question qui nous est posée ce soir, pourquoi ne pas tout bêtement vacciner ceux qui le veulent et laisser ceux qui ne le veulent pas ? Marie-Paul Kieny, puisque certains ne veulent pas du AstraZeneca, est-ce que la place du gouvernement, on ne peut pas dire, on met en place une plateforme, que chacun y aille tant qu'on a des doses pour accélérer la campagne de vaccination et ne pas avoir des doses de vaccins qui sont stockées dans des frigos ?
Mais on va sûrement faire ça. Alors, pour le moment, on a déjà maintenant offert la vaccination aux personnes de 65 à plus, et les soignants, tout quels qu'ils soient. Et l'étape suivante, c'est de dire, bon ben voilà, on va commencer à ouvrir à une population plus jeune, 50 ans par exemple. Et donc, à ce moment-là, il y aura toujours une possibilité pour les soignants de venir se faire vacciner s'ils changent d'avis, mais ça permettra d'ouvrir D'accord. à des gens plus jeunes qui veulent se faire vacciner. Et c'est prévu dans la stratégie.
Ça peut se faire rapidement, Marie-Paul Kenny ?
Je pense qu'il faut attendre peut-être les livraisons de vaccins supplémentaires. Pour le moment, les livraisons qu'on a pour le mois de mars permettent encore de vacciner des personnes particulièrement vulnérables avec des comorbidités. Mais les livraisons qu'on devrait avoir au mois d'avril devraient pouvoir permettre d'ouvrir davantage à des populations plus jeunes et sans comorbidité.
Nathalie Saint-Cricq.
Il y a la conscience qu'on a été trop... Ça a été complexe, la lisibilité oui. des vaccins. C'est-à-dire qu'on vient de le dire, les plus fragiles, c'était logique, la vaccination dans des EHPAD, et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, il fallait avoir dans une tranche d'âge et une comorbidité. La comorbidité, moi je ne suis pas médecin, donc il fallait avoir un cancer sous traitement, mais si on ne l'avait plus depuis 2 mois, on n'était pas éligible. Donc c'était quelque chose, c'était devenu une espèce d'usine à gaz. Mmh. Je rajoute que l'accès aux vaccins chez les personnes les plus âgées se faisait via Doctolib oui. ou un certain nombre de sites qui ne sont pas forcément les personnes les plus familières et les plus familiarisées à ce mode de fonctionnement. Donc il y a une espèce de pas de cirque, mais de désorganisation relative, si bien que maintenant on a l'impression que les verrous tombent, c'est-à-dire que finalement, les tranches d'âge vont se libérer, que les comorbidités...
Ouais. Et ça peut aller assez vite, les informations dont vous disposez, en tout cas il y a la volonté.
Je pense que je suis moins compétente que les scientifiques pour parler de ça.
C'est
mais
une
j'ai
décision politique, c'est pour ça que
c'est
je
C'est une
pose
décision
la question.
Politique, et à un moment donné, où s'il y a une espèce de fureur qui monte, c'est-à-dire en disant parce que pour l'instant, il faut bien être clair, c'est vaccination versus confinement. C'est-à-dire qu'en gros, plus on vaccine vite, moins on se rebouclera couvre-feu ou confinement, tout ce qui est essayé. Donc il y a un moment donné où les gens vont dire « mais moi, je veux bien être vacciné pour avoir
Allons-y.
La paix ». Et il va y avoir une montée de l'opinion. C'est ça qu'à mon avis, le gouvernement pressent. Donc on va garder nos populations à risque pour être juste. C'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un qui a 25 ans est moins éligible, quelqu'un qui est un transplanté.
Il y aura une priorité.
Mais le transplanté est déjà prioritaire. Et qu'au bout d'un moment, si les gens ne veulent pas de l'AstraZeneca en considérant qu'ils font leur marché et qu'ils disent « moi, le Johnson & Johnson, j'attends un mois, je préfère, ça serait mieux », voilà, que c'est pas comme ça que ça se passe et qu'on effectivement change le braque, mais il faudrait qu'une poussée de l'opinion et que les gens soient vraiment conscients. On parlait des effets secondaires parce que c'est quelque chose qu'on a constaté dans beaucoup de reportages. C'est vrai, juste leur dire que l'effet secondaire du Covid, ça peut être la réanimation et la mort, et que cet effet secondaire là il est quand même nettement plus enquiquinant que d'avoir 39 pendant 2 jours.
C'est bien de le rappeler. Accélérer, ça veut dire aussi donner la possibilité aux pharmaciens, on l'a vu dans le reportage, de vacciner les pompiers volontaires. Les pompiers sont volontaires pour accélérer également la vaccination. Ça peut faciliter les choses. Caroline Tourbe, il y a aussi la possibilité, alors là on a vu, c'était quelque chose qu'avaient fait les Britanniques, d'espacer les doses ou alors de ne faire qu'une dose.
Oui. Alors ça, c'est un peu tout l'arsenal qu'on peut sortir. Espacer les doses, ne faire qu'une dose, c'est important, mais ça ne va pas multiplier les points d'injection, on va dire. Ce qui peut multiplier, c'est de permettre en effet aux sages-femmes de vacciner, aux infirmières évidemment de vacciner, aux pharmaciens et donc aux médecins généralistes. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au premier stade, en fait. Donc hier, la HAS a dit que ça allait être... Enfin, a émis un avis pour dire qu'il faut laisser tout le monde vacciner, tous les soignants vacciner. Mais pour l'instant, la priorité, elle reste sur les médecins généralistes. Et puis il faut déjà qu'ils s'organisent. C'est vrai qu'on a vu que même eux
ont
du
mal.
Ils ont droit à leurs 3 flacons par semaine. Quand ils l'ont ouvert, ils doivent utiliser à peu près 10 doses. Ils ne peuvent pas le garder très longtemps au frigo. Il faut qu'ils aient leurs patients qui viennent les voir, qui puissent avoir le temps de les vacciner. Et que si jamais ils ne sont pas là,
on peut l'utiliser. Il y a une forme de déception, là, pour le coup, de la part des observateurs, je vais le dire comme ça. Les généralistes avaient dit on veut vacciner, il faut nous donner la possibilité de le faire. Et puis quand on a vu le nombre de volontaires, ce n'était pas énorme. Et quand on a vu la complexité que ça représentait pour leur quotidien par rapport à leurs consultations habituelles, on s'est dit, c'est peut-être pas la bonne solution. La meilleure solution, c'est peut-être les pharmaciens.
Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui se mord un peu la queue. C'est-à-dire que, pour revenir encore en arrière, en 2009, avec la grippe pandémique, on avait exclu les médecins généralistes du système en mettant des grands vaccinodromes où les gens n'étaient pas venus parce que la menace ne s'était pas avérée aussi menaçante que prévu. Là, la menace, elle est réelle. Et on a voulu inclure les médecins généralistes. Ils sont inclus, c'est très bien, mais en fait, ils vont pas suffire. La menace, elle est telle et le besoin de vaccins est tellement tellement importants qu'en fait, ils ne peuvent pas suffire. La bonne volonté avec laquelle ils vont se mettre à vacciner leurs patients, parce qu'ils ont aussi commencé à appeler, c'est-à-dire qu'autour de nous, on entend le médecin qui a appelé, parce que notamment aussi, on parlait de doses réservées à tel et tel profil, il y a aussi des médecins qui peuvent un peu rediriger comme ça leur dose en disant, moi j'ai eu des refus, vous êtes éligible en tant que médecin prescripteur, je peux vous prescrire le vaccin, vous correspondez, je vous vaccine. Donc ça va être aussi cet enchaînement-là. On ne peut pas compter que sur le vaccin pour se sortir de cette pandémie et on ne peut pas compter que sur les médecins généralistes.
Et c'est à partir de quand les pharmaciens?
Il n'y a pas une date précise. En fait.
Mais ça va arriver assez vite.
Mais ça va arriver, ça va arriver. C'est aussi une question de dose. Une fois que les doses seront disponibles, largement...
Et on rappelle que les pharmaciens, ils vaccinent contre la grippe.
Bien sûr. Hein.
Juste, Marie-Paul Kenny, pour revenir sur ces décisions aussi de l'HAS, parce que la Haute Autorité de Santé, qu'on avait commenté à l'époque, sans doute ensemble, à propos des Britanniques, qui avait dit non, nous on va espacer les doses, comme ça on fait un petit peu de trésorerie sur les doses de vaccins, ça nous permet de vacciner en première intention plus de monde. Donc une seule vaccination pour les personnes qui ont déjà été contaminées et espacer les doses, c'est pas prendre un risque.
Alors, pour ce qui est d'espacer les autres du vaccin AstraZeneca, il faut les espacer, d'ailleurs, parce que les résultats ont montré que l'efficacité maximale est atteinte quand on espace les deux doses de 12 semaines, de 3 mois. Donc là, on espace D'accord. beaucoup. Une seule dose pour ceux qui ont déjà été infectés, c'est d'accord avec ça aussi. Par contre, à la fois le comité scientifique vaccin Covid et le conseil d'orientation qui est présidé par Alain Fischer attirent l'attention sur le fait qu'il faudrait continuer à donner les doses de vaccin, la deuxième dose de vaccin ARN messager comme il est prévu, c'est-à-dire 3 ou 4 semaines après, parce qu'on voit que dans les études qui ont été publiées, des déploiements de vaccins dans la vie réelle, hein, en Écosse ou en Angleterre, on voit que le niveau d'efficacité qui est atteint juste avant la deuxième dose baisse si on ne donne pas cette deuxième dose.
D'accord.
Donc, il nous semble que l'économie qu'on pourrait faire en l'espaçant ne vaut pas la chandelle par rapport à acquérir une immunité vraiment élevée, surtout qu'il semble que quand on veut protéger contre des variants, plus l'immunité est élevée et mieux on a un effet protecteur vis-à-vis des variants.
Marie-Paul Kenny, à partir de quand il n'y aura plus de sujet sur la fourniture des doses de vaccins?
Alors on peut en avoir pas mal parce que ce qu'on a vu maintenant, c'est que la stratégie est en train de changer. En fait, au point de vue mondial, et tout le monde était d'accord que ce qu'il fallait faire avec les vaccins, c'était en priorité vacciner les personnes les plus fragiles, les plus âgées, pour éviter d'avoir les engorgements des hôpitaux, pour éviter que les gens meurent, etc. Mais ce qu'on voit maintenant avec les expérimentations qui ont été faites en Israël, c'est une expérience. Hein. Et c'est fantastique qu'ils aient fait ça, mais c'est pas, la France n'aurait pas pu faire cette expérience. La France est trop grande. Mais l'expérience en Israël qui montre que quand on vaccine des grands pans de la population, on arrive à limiter, à réduire la circulation du virus. On voit ça aussi, l'intérêt de vacciner des grands pans de population en Angleterre et en Écosse. De plus en plus, on est en train de changer, là aussi, de braquet, si je peux dire, et se dire, une fois qu'on va avoir vacciné les personnes les plus vulnérables, on va peut-être vouloir aller vacciner tous les autres, en commençant par les adolescents qui veulent aussi pouvoir vivre et qui sont aussi des facteurs de transmission, et potentiellement en descendant chez les enfants. Donc, on passe en fait d'une idée qu'on veut vacciner 20% de la population, disons en gros, à une idée qu'il faudra peut-être vacciner tout le monde. Donc, si on fait ça, eh bien, la question de la disponibilité des doses va continuer à se poser pendant un certain temps.
Va continuer à se poser, d'autant qu'il ne manque pas simplement la matière, le vaccin lui-même, puisque visiblement, la production de vaccins manque de matériel et de personnel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un membre du gouvernement. Le point bloquant aujourd'hui, ce sont les goulots d'étranglement en termes de fourniture de cuves, fourniture de bouchons, fourniture de flacons. Voilà ce qui manque en ce moment pour arriver à produire suffisamment de vaccins. Dans les zones les plus touchées, comme à Nice, sous le coup d'un confinement, d'ores et déjà le week-end, des doses supplémentaires de vaccins sont arrivées en urgence. Sur place, vous allez le voir, on se presse dans les centres de vaccination. Reportage Laura Rado, Maxime Liogier et Mélanie Lunès.
Actuellement, nous avons des vaccins du type AstraZeneca et puis des Pfizer.
Dans ce frigo, voilà. 1044 doses de vaccin Pfizer.
Ce sont des doses que doit absolument consommer aujourd'hui avant 15h.
Ce centre de vaccination administre désormais le dernier vaccin autorisé, l'AstraZeneca, dédié notamment à des patients de 50 à 74 ans qui souffrent de comorbidité.
L'AstraZeneca est plus facile en termes d'utilisation. On a moins de contraintes.
dans les Alpes-Maritimes. 45 000 doses de ce vaccin seront livrées ces prochains jours.
On a eu une augmentation en termes de livraison, une accélération. Mais il faut savoir que pendant une dizaine de jours, du 6 au 17 février, on n'a eu aucune dose pour assurer la première injection. Ce qui fait que notre calendrier de vaccination, il est totalement décalé. Et là, actuellement, pour nous, l'objectif, c'est de rattraper le retard qui a été pris en termes de vaccination. On prend ce qu'on nous donne. Si on en avait un peu plus, on serait content.
Car dans le département, le taux d'incidence bat des records. 617 pour 100 000 habitants contre 221 dans le reste du territoire. Le pire taux comptabilisé en France métropolitaine. Dans ce centre à Antibes, 350 personnes sont désormais vaccinées par jour. C'est le double du mois dernier. Parmi eux, Maryse et Georges Lévy, 73 et 72 ans. Leur premier rendez-vous a été annulé, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Maryse se fait inoculer le vaccin Pfizer.
C'est apparemment le plus efficace pour les vieux.
La vaccination, le début d'une nouvelle vie pour ces septuagénaires.
Ça va ?
Très bien.
J'étais très contente, parce que ça commence à bien faire là. Un an, c'est long. Les petits-enfants, on les voit à distance. Les enfants, pareil, on s'embrasse plus. On se... C'est comme tout le monde, quoi. Ras-le-bol.
Un couple qui s'estime chanceux, car dans la file, certains ne peuvent pas recevoir le vaccin, alors qu'ils avaient pourtant un rendez-vous.
On s'est inscrit sur Internet. Et donc, on a reçu tout de suite une inscription avec la date et l'heure. Et puis là, on arrive, on nous dit qu'on n'est pas sur la liste.
Vous avez une confirmation ?
Oui, oui, oui. On a tous les deux, on a une...
Début février. D'accord. Voilà. Il y a eu un bug informatique, ce qui fait qu'on n'est pas informé que vous deviez venir aujourd'hui, d'accord ?
Des retards qui s'accumulent, une situation parfois dramatique, comme le confirme cet employé de mairie.
C'est vrai que bon, il faut avoir les nerfs solides quand même. Surtout quand on contacte des personnes pour leur dire de venir et qui sont décédées entre-temps ou qui sont en Covid au centre hospitalier, c'est assez dur. Voilà. On les a vus il y a quelques temps en arrière, ils se sont présentés devant nous et après, voilà quoi. Donc oui, il faut gérer tout ça.
Et pour encourager la vaccination...
Ça va ?
Ben ça va, je vais y passer.
Vous allez y passer ?
Le maire de la ville s'est déplacé en personne.
Merci pour tout.
Moi j'ai été médecin aux urgences, je suis cardiologue, j'ai toujours été plus... enclin à faire plus sur celui qui est le plus grave que sur celui qui est le moins grave. Donc il est logique qu'on adapte dans les zones dans lesquelles il y a une circulation très forte du virus une vaccination beaucoup plus rapide que dans les endroits où, pour l'instant, on est en situation de stabilité.
Bonjour.
S'adapter au plus vite. Pour cela, les autorités comptent sur les médecins généralistes. Sauf que beaucoup d'entre eux estiment que la vaccination est complexe à organiser, comme le docteur Catherine Ballette.
Quel que vous voulez, bras droit ou bras gauche, ça m'est égal.
Cette praticienne a donc choisi de vacciner dans un centre et non dans son cabinet.
Il faut avoir au moins 10 personnes dans la journée pour pouvoir les vacciner. Ça encombre beaucoup les consultations et ça nous a paru beaucoup plus simple, nous, dans la mesure où le centre de vaccination était créé et dans la mesure où on faisait toujours du Pfizer, du Moderna, de rajouter des vaccins Astra. C'était beaucoup plus logique.
Et il y a urgence, car les variants gagnent du terrain. Le britannique représente 62% des tests positifs dans les Alpes-Maritimes.
Mais je le mets tout le temps quand même.
Quand on voit la complexité de la vaccination chez les généralistes, on se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas finalement changé de braquet, puisque c'est l'expression du jour, et mis en place des vaccinodromes ?
C'est ce qui devrait se faire, en fait.
Ah bon ?
Possiblement, en tout cas, on peut dire qu'il va y avoir un élargissement des centres de vaccination. On ne va pas uniquement compter sur les petits cabinets médicaux. Dans les déserts médicaux, les gens, ils ont des autres patients, ils ont déjà du mal à leur trouver de la place pour leurs autres pathologies. Et il faut faire de la place, des journées spéciales pour vacciner. Non, c'est pas...
C'est renforcer la vaccination dans les départements à risque. Est-ce que c'est pas ça aussi l'une des stratégies du gouvernement pour éviter encore une fois le scénario catastrophe
Absolument.
Du reconfinement ?
C'est une des possibilités, une des choses qui peut-être pourrait être annoncée demain. C'est-à-dire qu'en échange, on essaie de temporiser en fait, de gagner un peu de temps pour éviter le couvre-feu. Le confinement pardon le week-end en se disant on va vacciner massivement avec le seul risque c'est que pour l'instant on a un peu de retard dans la vue, on a quelques semaines, c'est-à-dire qu'on voit que ce qui a été fait dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque a été lancé le 28 février. Les spécialistes, une fois de plus, j'en fais pas partie, disent qu'il faut attendre une quinzaine de jours voire trois semaines pour voir si cet effet du confinement du week-end a de l'effet. En échange on donne des doses, on risque de courir toujours après ce temps en ne sachant pas si on fait du préventif ou on fait du curatif, mais ça fait partie des pistes de... redéfinir la carte. Vous savez qu'il y a des départements rouges, verts, il y a des zones différentes. En fonction de cette évolution de dernier moment, mettre le paquet sur les rouges pour que les rouges deviennent oranges et surveiller les verts pour qu'eux-mêmes ne soient pas modifiés.
Alors, c'est une carte qu'on voit là à l'instant qui pourrait évoluer demain. C'est-à-dire certains départements sortiraient de la zone rouge, d'autres seraient
un peu plus allégés. Absolument, on sait qu'il y a le Pas-de-Calais qui est en train de se renforcer. On sait qu'il y a la Seine-Saint-Denis qui a l'air d'être plus dure que le reste de l'Île-de-France. Il y a d'autres départements comme l'Indre-et-Loire qui inquiètent un petit peu parce que l'évolution, en fait, c'est plus un problème de tendance générale que d'état, comment dire, de taux maintenu.
Pour faire suite à cette carte et pour boucler la boucle sur la partie politique, on entend pas mal d'élus locaux avoir un avis sur reconfinement du week-end ou pas. C'est le cas notamment de la maire de Paris. Oui. Quelle est la marge de manœuvre des élus locaux par rapport à la décision qui sera prise et qui sera annoncée demain par le Premier ministre ?
On va d'abord faire un préalable, c'est ceux qui font de la politique. Oui. C'est-à-dire qu'on va les mettre de côté, c'est-à-dire ceux qui considèrent effectivement qu'il faut annoncer. Ce qu'on a vu à la mairie de Paris était un petit peu étonnant, annoncer qu'il fallait un confinement total de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pourquoi pas 7 ou 8 ou 2,5. Et après, avec finalement un rétropédalage d'Anne Hidalgo en disant qu'elle était que le confinement du week-end serait quelque chose d'inhumain. Donc il y a des gens quand même qui s'intéressent certes à leurs administrés, mais il faut quand même un tout petit peu de politique. À côté de ça, l'idée de faire départementaliser les décisions. L'idée de se dire qu'on parle avec les maires, que le couple maire-préfet sait si c'est dans la grande rue que les gens se massent, sait si c'est sur la promenade des Anglais, oui. Ou ce qu'on a vu sur les quais de Seine l'autre soir, toutes les images où on a vu des gens absolument agglutinés. Et essayer de décider au plus près, c'est une idée qui, a priori, peut choquer l'égalitarisme français, mais qui me semble être une bonne idée. Et puis, on a trop reproché au gouvernement de gérer de façon verticale pour ne pas laisser une petite marge de manœuvre. Oui. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que manifestement, pour l'instant, on se met d'accord, enfin, on discute avec le maire, le préfet, pour serrer la vis, mais qu'on ne discute pas encore avec le maire ou le préfet pour la desserrer. C'est-à-dire que ça ne peut être que dans l'aggravation, mais pour l'instant, il serait trop tôt, et c'est ce que Jean Castex a dit hier, pour considérer que quand on est dans une zone verte où manifestement les choses vont bien, ou en zone rurale, c'est pas pour autant qu'on va se mettre à rouvrir tous les restaurants et les bars.
Et pourquoi pas, je pose la question à l'épidémiologiste, et pourquoi pas rouvrir là où ça va bien ? Antoine Flau.
Marie-Paul ou...
Oui, Antoine Flau, pardon.
Non, vas-y, Antoine, vas-y.
Allez.
Non, je veux bien dire quelque chose. Il y a cette discussion partout. Ce qu'on sait quand même, c'est que, et là, les études l'ont monté, d'épidémiologie, c'est qu'en fait, le restaurant, c'est un des endroits où on s'infecte le plus, en plus de la famille. Pourquoi ? C'est parce qu'on est assis pendant un temps long, on enlève son masque parce qu'on mange, et donc, on crache du virus quand on en a. Donc, c'est le dernier endroit vraisemblablement à ouvrir, et je vois que malgré tout, effectivement, il y a une tendance à dire il faut ouvrir, etc. Et je pense qu'il est prudent.
On comprend aussi les restaurateurs, Marie-Paul Cani, qui sont fermés depuis si longtemps.
Mais c'est sûr. Bah oui, mais d'un autre côté, ils sont compensés aussi, ou j'espère qu'ils vont être compensés. Des endroits où ça va relativement bien, où on ouvre d'autres choses, il y a d'autres choses à ouvrir, y compris la culture d'ailleurs, qu'on peut faire avec un masque. Et il faut sans doute faire les ouvertures petit à petit et attendre de voir quel est l'effet de cette ouverture avant de décider que c'est le grand déballage et qu'on ouvre tout.
Antoine Flau ?
Oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par Marie-Paul Cani. Je crois que malheureusement, les bars et les restaurants restent des endroits qui sont difficiles de sécuriser. Alors, ce n'est pas impossible non plus. On peut travailler davantage sur la ventilation de ces endroits. Je prendrai juste un exemple, parce que c'est un papier récent, mais qui montre que dans les avions, il y a extrêmement peu de risques. C'est pareil dans les TGV, hein, parce que l'air est très renouvelé. Il est renouvelé d'une façon plusieurs fois par heure, et d'une façon très importante, et ça sécurise beaucoup, puisqu'il y a eu très très peu de contamination dans les avions. La IATA a publié des données qui sont extrêmement basses par rapport finalement à la pandémie qu'on a connue, et où pendant des longs courriers on aurait pu imaginer des contaminations qui ne se sont pas produites, et il y a eu plusieurs travaux de modélisation qui ont bien montré que c'est des endroits très sécurisés. Donc on peut sécuriser des lieux clos, et puis on peut aussi se dire, si c'est très aéré et que c'est pas dangereux, y compris d'être à côté de quelqu'un qui est contaminé et qui tous, dans un vol, vous ne risquez très peu d'être contaminé parce que l'air dissout tout de suite, très vite, les particules virales potentielles et qu'il n'y en reste pas suffisamment en aérosol pour vous contaminer. Eh bien, on peut se dire que les terrasses de restaurants, par exemple, pourvu qu'on maintienne juste une distance physique suffisante, seraient des lieux très peu à risque je pense, les terrasses des bars aussi. Et quand on parle des lieux de spectacle, c'est des choses dont on peut discuter, mais je pense que dans certaines conditions, je ne parle pas des spectacles où les gens sont appelés à être très interactifs, à chanter, à hurler, à danser, à être très proches les uns des autres, mais si vous parlez de cinéma, si vous parlez de concerts, si vous parlez de théâtre, où on peut très probablement sécuriser assez bien ces endroits-là et avoir un risque relativement faible. D'ailleurs, il y a très peu de clusters qui sont rapportés dans ces lieux-là.
Et d'ailleurs, le gouvernement, Nathalie Saint-Cricq, réfléchit aussi, d'ailleurs même cet après-midi, à l'idée d'instaurer un pass sanitaire. C'est-à-dire que on n'a pas encore la solution, mais on réfléchit à l'idée de se dire rouvrir là où on peut rouvrir avec ceux qui absolument ne présentent aucun risque, ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ne sont absolument pas positifs.
Il y a deux mouvements parallèles. D'ailleurs, il y a une réunion en ce moment à l'Élysée sur la façon dont les choses vont pouvoir ouvrir après, c'est-à-dire toujours dans la fameuse perspective de redonner le moral. On est en train de regarder comment, comme le disait le professeur Flao, les cinémas, les théâtres, les lieux culturels, les endroits aérés pourraient éventuellement se rouvrir. Donc on nous enclenche l'idée qu'il y a une méthode qui est en train d'être réfléchie sur la façon dont oui on pourrait s'en sortir. Deuxièmement, montent ces fameuses idées. Alors, on peut appeler ça le pass sanitaire, le passeport. Oui. Voilà, avec simplement l'idée. Et ça va dans le même sens que ce qu'on disait tout à l'heure sur une espèce de mouvement tendanciel d'essayer de pousser les gens à se faire vacciner, qui est qu'en gros, je ne parle pas simplement de la Grèce, de l'Espagne ou du Portugal, qui sont des pays touristiques et qui ont un besoin fou d'avoir des touristes, donc de penser que si on a un pass sanitaire en disant bah, « Écoutez, moi j'ai été vacciné, je ne suis pas dangereuse, pourquoi je n'aurais pas ?» ça va pousser un peu les gens à se dire, au bout d'un moment, eh bien, si je peux montrer que soit j'ai mon test négatif qui a été fait dans les temps, si j'ai la possibilité de montrer que j'ai été vaccinée, eh bien, je pourrais revivre. Donc c'est finalement quelque chose qui est en train de gagner. Alors, si on a les vaccins, hein, oui, il est hors de question d'aller mettre un passeport vacciné avec quelqu'un qui dirait, moi je rêve d'avoir mon passeport, mais on m'a jeté 15 fois.
Et avec des tests positifs, ça aurait du sens ou pas?
Pour l'instant, on nous prépare avec tout. Dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est un pass sanitaire qui est large, dans lequel il y a à la fois la preuve qu'on peut l'avoir russe, qui pourrait tendanciellement prouver qu'on ne peut pas le revoir tout de suite ouais au cours de l'année. Deuxièmement, montrer qu'on a un test PCR. Et puis l'étape suivante, ça sera la vaccination. Mais j'ai l'impression que dans toute l'Europe, entre les pays du ouais Nord qui ont envie de bouger et les pays du Sud qui ont envie de recevoir, il y a une espèce de mouvement et que peut-être ça va pousser la population à vouloir se vacciner plus facilement.
Mais puisque pour vous parler de l'Europe face à la pénurie de doses, certains pays européens ont choisi de jouer en solo et de se tourner vers des vaccins russes et chinois. C'est le cas de la Hongrie qui n'a même pas attendu l'homologation des autorités de santé européennes. Mathieu Lignot, Ilana Azincote.
En Hongrie, ces patients font la queue pour recevoir une dose de vaccin chinois. Pas d'homologation de l'Union européenne pour ce produit, mais le gouvernement hongrois a choisi de faire cavalier seul. Et ici, peu importe l'origine du vaccin, on veut se protéger.
Je n'ai lu que des bonnes choses sur le vaccin chinois récemment, donc je n'ai pas peur.
Ce n'est qu'une piqûre. Et après, on sait qu'on sera bien protégé contre le virus.
Des centaines de milliers de vaccins russes Sputnik V et de vaccins chinois ont été commandés par la Hongrie. Il y a 15 jours, atterrissage d'un avion avec à son bord des doses chinoises et réception en grande pompe par les autorités locales.
C'est un spectacle magnifique de voir tant de vaccins arriver.
5 millions de doses ont été commandées à la Chine. Le Premier ministre Viktor Orban a même montré l'exemple en se faisant piquer avec le produit Sinovac.
Pour nous, tous les vaccins sont bons et sûrs. Des vaccins avec lesquels plusieurs millions de personnes ont été vaccinées dans le monde. Nous pourrions difficilement nous permettre de ne pas les rendre disponibles ici, en Hongrie.
Des pays membres se montrent très critiques de la politique vaccinale de l'Union européenne. Pour eux, les commandes groupées ne vont pas assez vite. Résultat, certains d'entre eux se tournent vers la Chine ou la Russie. Comme la Hongrie, donc, et aussi la République tchèque ou la Slovaquie. Hier, le Premier ministre slovaque réceptionne les premières commandes du vaccin russe et son discours est sans équivoque à destination de l'Union européenne.
Je pense qu'en respectant les délais et les approvisionnements promis, la Russie prouvera qu'elle est un partenaire stable sur lequel nous pouvons compter en ces temps difficiles.
Le taux de vaccination dans l'Union européenne atteint seulement 7,5% de la population. Ces pays de l'Est de l'Europe veulent accélérer, car ils sont touchés de plein fouet par de nouvelles vagues.
L'achat centralisé de vaccins à Bruxelles a échoué. Il met la vie des Européens en danger et menace le redémarrage économique. Par conséquent, nous avons dû chercher de nouvelles sources pour obtenir le vaccin.
L'achat groupé de vaccins, c'était censé être le point fort de l'Union européenne. Elle a commandé 2,3 milliards de doses. Mais les fournisseurs Pfizer ou AstraZeneca n'ont pas réussi à tenir les délais de livraison. Des retards qui mettent la Commission européenne en porte-à-faux. Sa présidente a fait son mea culpa.
C'est aussi un fait qu'aujourd'hui, dans le combat contre le virus, nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être. Nous étions en retard pour autoriser les vaccins. Nous étions trop optimistes en ce qui concerne leur production massive. Et peut-être l'étions-nous aussi en pensant que ce que nous avons commandé serait effectivement livré à temps. Nous devons nous demander pourquoi c'est le cas et quelles leçons nous pouvons tirer de cette expérience.
Alors, pour accélérer la campagne de vaccination, l'Union européenne veut mobiliser davantage de capacités de production dans les pays membres.
Si les choses se déroulent bien, et elles se dérouleront bien, d'ici la fin de l'année, on devrait être en capacité, tenez-vous bien, de produire en Europe entre 2 et 3 milliards de doses de vaccins par an. Et
donc
on
sera le premier continent,
sur le sol européen. C'est ça l'autonomie à laquelle nous sommes attachés, c'est ça mon combat.
Une autonomie trop tardive, car d'autres pays européens comme le Danemark et l'Autriche veulent nouer un partenariat de production avec Israël. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz se rend officiellement demain dans l'État hébreu pour lancer cette coopération vaccinale.
Et cette question, Marie-Paul Kieny, pourquoi ne pas se tourner vers le Sputnik V qui semble avoir de meilleurs résultats que l'AstraZeneca ? Alors,
le Sputnik V est un vaccin qui est efficace. Je pense, j'ai fait une mission à Moscou au mois de novembre et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec ceux qui le font. Le vaccin de Sinovac, en tout cas, Sinopharm allait être efficace aussi, mais Sinovac, je connais les résultats.
Ça, ce sont les Chinois.
Est efficace contre les formes graves, moins efficace par contre, y compris moins efficace qu'AstraZeneca contre les formes bénignes. Donc ce sont des vraies alternatives. Mais je pense qu'il y a une part de populisme qui est insupportable là-dedans, parce que les petits pays européens qui disent on s'en serait sorti mieux tout seul, c'est pas vrai. La négociation centralisée qui a été faite avec l'Europe leur a permis d'avoir accès à des vaccins beaucoup plus que s'ils y avaient été tout seuls. Alors tout ça, c'est de la politique. Alors la politique est respectable, je ne dis pas le contraire. Mais donc, on utilise le thème vaccinal pour démontrer une chose ou une autre. Alors, faudrait-il que l'Europe ouvre sa porte aux vaccins russes et chinois ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. D'ailleurs, les Russes, en premier, sont en discussion avancée avec l'autorité de réglementation du médicament européenne, ont déjà déposé des dossiers. Il va falloir voir maintenant s'ils peuvent entrer dans une procédure accélérée. Il faut aussi qu'ils arrivent à montrer que la qualité de ces vaccins est conforme à la qualité demandée par l'Europe. Et si c'est le cas, eh bien, ils seront autorisés comme les autres.
Mais ils ne l'ont toujours pas fait, ça n'est toujours pas fait
Les demandes ont été... Alors, la demande n'a pas été complètement encore déposée. Je crois qu'ils sont prêts à finir leur dossier, mais les Chinois n'ont pas fait de demande. Mmh. C'est parce que les Chinois, en particulier, mais Sputnik jusqu'à un certain point, ont préféré en fait jouer la carte de la stratégie des échanges bilatéraux, parce qu'en fait, ils s'achetaient des points vis-à-vis de pays qui les intéressaient. Mais il ne faut pas critiquer ça. En fait, on est tous très contents qu'il y ait des pays qui n'auraient pas eu accès à des vaccins auparavant, oui. Comme l'Argentine, comme d'autres, qui puissent bénéficier des vaccins chinois ou russes. Il faut aussi se dire que dans ce monde-là, on n'est pas là à vouloir monopoliser tous les vaccins. Il faut aussi penser à l'équité. Les autres gens ont aussi besoin de vaccins, y compris les Russes d'ailleurs, pour leur propre population.
Et faire de la politique avec les vaccins, il n'y a pas que les Russes, il n'y a pas que les Chinois qui le font.
Il n'y a pas que les Russes. Il y a effectivement des gens qui ont des besoins absolus, comme on a vu la République tchèque ou la Slovaquie, pour lesquels ça a absolument explosé et qui se sont tournés vers les Russes parce qu'ils ont de bonnes relations avec les Russes traditionnellement. L'Europe a d'ailleurs décidé d'aider également la République tchèque, mais il y avait une vraie pénurie. Les Polonais qui sont s'entendent très mal avec les Russes en général, depuis de nombreuses années, ont plutôt eu tendance, eux, à se tourner vers la Chine. L'Ukraine est dans une situation très difficile, vu ses relations avec la Russie, d'où l'engagement de Charles Michel d'aider l'Ukraine pour pas que ce soit un peuple qui soit totalement non vacciné parce qu'il a un contentieux avec son voisin. Et Israël, d'un autre côté, a eu tendance aussi à aider, à faire une coopération plus grande avec des pays, de manière à non pas se rabibocher, mais à renouer de bons liens avec, dans certains cas, quelques conditions, notamment considérer que la capitale peut être Jérusalem.
C'est ça, c'est mais la diplomatie
du vaccin. Attendez, il y a une géopolitique du vaccin aussi. Alors, avec tous les bons côtés, comme a dit Marie-Paul Guéni, qui sont aider tout le monde. Et il y a aussi, quand on voyait les doses de vaccins arriver, les doses de vaccins chinoises en Afrique, il y a aussi la volonté d'avoir des aires d'influence. Et on sait que ça, c'est pas nouveau, mais qu'à l'occasion de cette vaccination, ça peut être la façon de prendre possession de territoire et d'avoir des zones d'influence.
Géopolitique du vaccin et trafic autour du vaccin, puisqu'Interpol a annoncé la première saisie de faux vaccins. 2400 doses de faux vaccins ont été saisies. C'est la face émergée de l'iceberg, dit Interpol. Ça, on s'y attendait, ça se produit.
C'était même un peu long, je trouve. Non, ouais. C'est évident. Ça a beaucoup de valeur, c'est très attendu, il y a beaucoup de demandes, donc il y a de l'offre. Hein. Voilà, au bout d'un moment, c'est logique. C'est le cas pour la plupart des médicaments, pour les médicaments contre le sida, pour les médicaments contre le palud. De toute façon, il y a des faux. Ils sont vendus très cher et les gens qui les achètent ne savent pas toujours forcément qu'ils sont faux. C'est là qu'il y a vraiment le danger de se croire protégé par un vaccin, donc par un faux vaccin qui ne le serait pas. Et puis d'autres qui font du commerce sciemment avec des faux vaccins. Donc oui, c'est un danger et c'était prévisible et ça va se renforcer encore, ça c'est sûr.
Je précise cette déclaration d'Interpol. Donc les faux vaccins ont été saisis en Afrique du Sud et un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine. Nous revenons maintenant à vos questions. Est-ce bien sérieux que l'exécutif nous promette une situation normale à la mi-avril alors que nous piétinons toujours ? Antoine Flahault.
Je ne sais pas s'ils ont promis une situation normale. Ils espèrent, disent-ils, je crois, pouvoir lever un certain nombre des restrictions. Encore une fois, c'est un pari sur la vaccination qui permettrait de ne plus avoir à engorger les hôpitaux. Et je pense que ce pari est risqué parce que si on a affaire à une nouvelle vague, y compris chez les jeunes, les hôpitaux pourraient se voir engorgés à cause des jeunes cette fois-ci, ou des plus jeunes en tout cas, puisque on ne sera pas d'ici la fin avril à un niveau de couverture vaccinale des personnes, disons, de 50 à 75 ans qui sera suffisamment importante. Et si c'est pour proposer des mesures fortes, alors disons que vers la mi-avril, on pourrait, puisqu'on ne part pas de très très haut, on est dans un plateau certes, mais on n'est pas au sommet d'une vague, ce serait une sorte de nouveauté, puisque ce serait une sorte de confinement presque préventif. Alors oui, on pourrait être redescendu, un peu comme le Portugal a réussi à le faire, ou l'Espagne d'ailleurs, et penser à ce moment-là à réouvrir la vie de façon beaucoup plus agréable.
Si une partie du personnel médical est sceptique sur les vaccins, pourquoi faudrait-il les imposer aux Français, Caroline Tourbe ?
Alors, c'est une question qui est intéressante, mais en même temps qui pose une sorte de faux problème. Il faudrait que les Français se vaccinent si on veut réussir à se débarrasser du coronavirus, pour aider à s'en débarrasser. Donc que les soignants, qu'on soit soignant ou qu'on ne soit pas soignant, si on est sceptique pour de mauvaises raisons face à un vaccin qui est efficace, qui vous protège, dont les effets secondaires, pour l'instant, confirme que c'est un très bon vaccin, mais il n'y a pas de raison. Voilà.
À quand les vaccinodromes, comme en Israël ? Vous nous avez dit, a priori, ça arrive ?
Ça devrait arriver. Je pense que dans cet objectif, mi-avril, donc cette volonté d'espérance pour mi-avril, elle est forcée d'inclure des systèmes de vaccination beaucoup plus rapides, différents de ce qu'on a vu dans les reportages où les rendez-vous se prennent, puis il y a des bugs. Il faut vraiment généraliser, automatiser.
Vous parlez des bugs et des rendez-vous. Ma maman a 89 ans. Elle vit chez elle. Le centre de vaccination le plus proche est toujours complet. Comment faire ? Ça, c'est un cas particulier, mais je pense qu'il y a tout un tas de gens qui nous regardent ce soir
qui ont vécu ça. J'en connais plein.
Voilà.
Y a aussi un effort. Ça dépend aussi des municipalités, parce qu'il y a des municipalités, on a dit au début que la logistique était faible et qu'on aurait dû mettre l'armée. Il y a des municipalités qui s'organisent formidablement avec des bus, avec des minibus qui font la collecte, enfin pas la collecte des gens, mais qui vont les chercher chez eux, qui les ramènent, qui les vaccinent. Ça coûte cher, mais il y a aussi un certain nombre de collectivités locales qui se sont très bien organisées. Il y en a d'autres qui font un petit peu moins le boulot. Il y en a même qui téléphonent. Il y a eu le problème qui s'est posé de la liste d'attente. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne âgée, vous faites Doctolib, qui n'y a rien, vous ne pouvez même pas rester ou laisser une trace en disant j'étais là, voilà mon numéro. Mais on peut le faire aussi, puisque je vous rappelle que dans les périodes de canicule, il y a un système où on a exactement l'âge des gens et qu'on a leur téléphone et qu'on peut très bien téléphoner régulièrement en disant est-ce que vous avez bu aussi aujourd'hui, comment vous vous sentez, et on pourrait très bien envisager que les gens soient rappelés. Donc ça, je pense qu'il y a une grande inégalité en fonction des régions françaises et des départements et des municipalités en fonction du paquet qui est mis.
En tout cas, c'est pas calé, Nathalie Saint-Christ.
C'est pas, mais non, c'est pas calé. Moi, je vous donne un exemple. J'ai un kiné qui a beaucoup de personnes âgées et qui a passé ses journées pour ces personnes un peu âgées qui ne savaient pas le faire, et c'est bien normal parce que voilà, à leur prendre des rendez-vous, à le faire le soir, la nuit, et voilà.
Oui, c'est pour essayer de les gens en général, ils vont pouvoir vacciner les personnes plus
âgées. Ou les petits enfants, parce que les petits enfants sont un peu plus geeks que les grands-parents, ce qui est aussi assez normal. Et voilà. Et en plus, avec une quelque chose qui est très, très, très douloureux, c'est qu'il parle à personne. On ne peut pas parler à quelqu'un. Quand vous êtes face à votre truc en rideau toute la journée, il y a un moment donné où vous devenez fou.
Les 65-74 ans auront-ils le droit de choisir un vaccin plutôt qu'un autre ? Caroline Tourbe.
Alors là, on est sur le droit de choisir. De fait, ils auront le droit de refuser le vaccin qui leur sera proposé et puis de tenter leur chance ailleurs s'ils en ont un autre. Mais voilà, c'est ça, oui.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Antoine Flau, le droit de refuser de choisir ou d'attendre un autre vaccin, c'est prendre le risque parfois aussi d'être contaminé. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine Flau. C'est une prise de risque, surtout, il faut assumer.
Voilà, surtout qu'ils sont assez équivalents, en fait, ces vaccins. Vous savez, l'AstraZeneca, des études anglaises montrent qu'ils y seraient même peut-être supérieurs au Pfizer. Donc, je crois qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, parmi les vaccins qui sont approuvés par l'Union européenne, d'en choisir un plutôt qu'un autre.
En revanche, pour cette personne-là qui on parlait des 65-74 ans, les effets secondaires sont peut-être plus compliqués à gérer pour ces personnes-là ou même pas ?
Ben, je crois même pas. D'accord. Marie-Paul Kenny disait clairement que les effets secondaires sont plutôt chez les jeunes qui ont déjà fait un Covid. Donc, chez les personnes âgées, les séries anglaises n'ont pas montré. Et puis, il faut prendre un peu de paracétamol pour prévenir ces effets, cette fièvre. Et elle est finalement moins grave chez les personnes âgées.
Marie-Paul Kenny, vous confirmez, hein, c'est ça.
Donc, absolument, voilà. Je confirme.
J'ai eu la Covid-19, dois-je être vaccinée avec une seule ou deux doses ? Marie-Paul Kenny.
Une seule.
Une seule, c'est dit. Sait-on oui ou non si une personne vaccinée peut contaminer ? Antoine Flau.
Alors, on a des bonnes nouvelles là-dessus. C'est-à-dire que tous les essais cliniques n'ont pas été faits pour cela. Ils ont été faits pour montrer que le vaccin prévenait les formes graves et disons les formes symptomatiques. Hein, on veut un vaccin qui ne nous rende pas malades. Et en fait, c'est un petit peu différent de se dire on veut un vaccin qui nous permette de ne jamais héberger le virus et ne jamais le transmettre. Ça paraît peut-être bizarre, mais le vaccin de la poliomyélite injectable ne vous empêche pas du tout d'avoir dans vos intestins le virus de la poliomyélite et de le transmettre. Vous n'aurez jamais de poliomyélite vous-même si vous êtes vacciné, mais vous pouvez le transmettre. Eh bien, ces vaccins contre le Covid, par des études à la fois en Israël, fameux centre d'expérimentation grandeur nature, et aussi au Royaume-Uni qui a beaucoup vacciné, eh bien, on montre qu'il y a probablement presque 90% de réduction de transmission du virus. Donc ça, ce serait une très très bonne nouvelle si elle est confirmée et publiée. Pour l'instant, ce sont des papiers qui ne sont pas encore totalement publiés, mais très prometteurs.
Vous parlez d'Israël et de la Grande-Bretagne. J'ajoute cette information qu'il fallait donner aujourd'hui. Des vaccins pour tous fin mai aux États-Unis. C'est une annonce de Joe Biden parce que les Américains sont en avance de 2 mois sur leur campagne de vaccination. 260 millions d'adultes américains seront donc vaccinés fin mai aux États-Unis. Cette question, ne faut-il pas rendre la vaccination obligatoire pour le personnel des EHPAD et le personnel des hôpitaux ? On y revient, Caroline Tourbe, et en particulier pour les EHPAD.
En particulier pour les EHPAD, c'est une vraie question. Il y a en effet des vaccins qui sont obligatoires. En France, il y a des vaccins obligatoires pour les enfants, il y a des vaccins obligatoires pour certaines professions. Donc, c'est une question. Ça aurait pu être le pari, dès le départ d'ailleurs, de se dire, bon, voilà, on le lance, il est obligatoire. Il n'y a pas de décision à prendre. Vous entrez au bloc avec votre tenue de protection, vous entrez dans un EHPAD avec votre vaccin. Voilà.
Ça n'a pas été la décision. Ça a été étudié, c'est justement parce qu'il y avait une certaine réticence du personnel des EHPAD qu'on a choisi de vacciner les gens des EHPAD qui, a priori, ne sont sortent pas beaucoup et ne sont pas beaucoup en contact, mais qu'ils ont été les premiers à être vaccinés, puisqu'ils étaient en contact notamment avec les soignants, qui eux-mêmes ne voulaient pas majoritairement se faire vacciner. Donc il y a eu une stratégie, alors on peut la déplorer, on peut la trouver bonne ou mauvaise, mais ça a été réfléchi.
Y aura-t-il un passeport vaccinal ? Nathalie Saint-Cricq.
À terme, quand on sera tous vaccinés à la fin de l'été.
C'est ça. Allez, une dernière question. Une fois vacciné, pourra-t-on vivre sans masque ? Antoine Fléau.
Une fois vacciné, surtout s'il n'y a pas de risque de transmission, oui, on pourra vivre sans masque. Donc ça, il faut juste attendre cette dernière nouvelle qui devrait être confirmée bientôt.
Marie-Paul Kenny, vous êtes d'accord avec ça ? On lâchera les masques bientôt ?
Oui, il manque encore des données, mais on pourra sans doute s'en passer dans la plupart des circonstances.
Les chiens et les chats peuvent-ils transmettre les variants du Covid à l'homme ? Alors peut-être Marie-Paul Kenny, très vite.
Alors il n'y a pas de données là-dessus, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas, mais c'est extrêmement rare, quoi qu'il arrive.
Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.